Bonjour et bienvenue dans l'émission Enquête ou Enquête d'Histoire, présentée par Jeanne-Marie. Je suis historienne et j'ai envie de faire revivre le passé de notre département car son histoire est riche et mérite d'être mieux connue. Cette émission de 30 minutes sera mensuelle. J'y accueillerai un intervenant, historien ou archéologue, ou autre à qui je poserai des questions. Et comme l'histoire repose sur un principe de chronologie, aujourd'hui, nous allons remonter le temps vers une période très lointaine et accueillir notre invité, Didier Vigneault, qui restera avec nous durant plusieurs émissions. Didier, merci d'avoir répondu à mon invitation. Et pour que nos auditeurs puissent te connaître, je te laisse te présenter.
Tout d'abord, bonjour Jeanne-Marie et merci de m'avoir accueilli dans ton émission. Je suis Didier Vigneault, je suis archéologue. Et j'ai une particularité, c'est que je suis archéologue bénévole. Bien qu'ayant été formé à l'archéologie, ce n'est pas mon métier salarié. Mais néanmoins, je l'exerce avec force et passion au sein d'une association qui s'appelle le Centre de Recherche Archéologique sur les Landes, qui est basé à Mont-de-Marsan, et avec lequel je travaille en permanence.
Alors Didier, quand tu dis que tu es formé, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Parce que c'est important de savoir que tu as une expertise.
Oui, bien sûr. Donc, en plus de mes 22 ans en tant qu'archéologue, j'ai aussi un master en archéologie, et je suis actuellement en train de préparer une thèse en archéologie, un doctorat, dans laquelle je vais mettre en valeur tous mes travaux de recherche que j'ai effectués auparavant.
Sur les Landes?
Sur les Landes et uniquement sur les Landes, oui, pour l'instant.
Alors, ma première question sera la suivante. Didier, que signifie le mot archéologie?
Alors, le mot archéologie vient du grec ancien. Le mot vient de archélogos, pardon. Arché signifie ancien, logos signifie discours, parole, science. Ici, c'est plutôt la science, donc lorsqu'on relie les deux, c'est l'étude des sciences anciennes. Ça, c'est pour le mot. Mais en réalité, l'archéologie, c'est une étude scientifique des individus, des peuples et des civilisations qui ont disparu, et cela à partir de leurs vestiges.
Très bien. Et justement, alors, nous allons parler un petit peu, là, en rentrant dans le vif du sujet, des vestiges dans le département des Landes, car longtemps, les Landes ont eu la réputation infondée, on le voit aujourd'hui, d'être un désert, du moins dans la partie de la Haute-Lande. Ce qui signifie normalement que l'archéologie ne devrait pas y trouver grand-chose. Or, de nombreuses découvertes y ont été réalisées ces dernières années.
Effectivement, oui, mais alors je vais revenir un petit peu sur la notion de désert. Cela, on l'abordera dans une autre émission. Il y a deux façons de penser un désert. Il y a un désert environnemental et aussi un désert humain. Le désert environnemental sera traité dans la prochaine émission et le désert humain, cette fois-ci, on s'est aperçu au fil du temps qu'il était complètement infondé. Il faut savoir qu'il y a quand même eu de l'archéologie dans notre département depuis au moins le 19e siècle. Alors certes, tout le monde connaît la Dame à la Capuche de Brassempouille et le site de Brassempouille qui sont des sites phares dans les Landes. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu plusieurs recherches qui ont été réalisées, notamment sur des nécropoles situées en Chalosse, et aussi sur certains sites comme celui de Sanguinet qui est connu un petit peu du grand public. C'est un lac dans lequel plusieurs vestiges ont été trouvés, des vestiges de l'âge du fer et de l'époque romaine. Pour l'archéologie, au début du XXe siècle, il n'y a pratiquement plus d'archéologues qui interviennent dans les Landes. Et il faut attendre l'après-Seconde Guerre mondiale pour que de nouvelles opérations archéologiques y soient réalisées. On a ainsi fouillé la villa de la Bastide d'Armagnac ou celle du Glésia Saint-Sauvé. Et à partir des années 60, les premières opérations archéologiques sont réalisées à Mont-de-Marsan et aussi à Tartas. Ensuite, dans les années 80, les Landes connaissent de nombreux chantiers archéologiques, notamment sous l'impulsion des monuments historiques et de son représentant landais qui était Robert Aramburu. À cette époque, l'archéologie française n'est pas aussi structurée qu'aujourd'hui, dépendait essentiellement des monuments historiques. Les opérations archéologiques étaient donc menées par des personnes qui n'étaient pas salariées de l'archéologie, comme par exemple des instituteurs, des médecins, des universitaires, ou aussi par délégation des monuments historiques avec des chercheurs universitaires ou du CNRS. Nous avions, dans notre cas ici dans les Landes, Brigitte Vattier qui a beaucoup œuvré pour notre recherche.
Alors CNRS, si tu veux bien décliner le sigle.
Oui. Le CNRS, c'est le Centre National de la Recherche Scientifique qui regroupe plusieurs types de chercheurs. C'est un gros organisme étatique auquel je suis aussi rattaché. En parallèle, le Centre de Recherche Subaquatique de Sanguinet commença ses travaux dans le lac sur le site de Loza.
Alors justement, puisque tu parles du site de Loza, je crois que c'est intéressant que nos auditeurs comprennent que si aujourd'hui nous avons des, ce qu'on appelle des lacs ou des étangs, derrière un gros cordon de dunes, eh bien ça n'a pas toujours été comme ça. Et dans notamment, on va dire, allez, à l'époque proto-historique, c'est-à-dire avant l'arrivée des Romains, c'était tout simplement des débouchés de petites rivières qui donnaient directement dans l'océan.
Effectivement, oui. Cela, on en parlera de façon plus approfondie la prochaine fois. Mais effectivement, hein, les lacs sont des créations récentes, notamment le lac de Sanguinet, qui, on le sait aujourd'hui, est totalement fermé, mais qui était ouvert sur l'océan autrefois. La preuve, c'est qu'on a trouvé de nombreuses embarcations qui étaient capables de naviguer sur l'océan, et comme tu l'as dit, à des époques différentes, notamment à l'âge du fer et à l'époque romaine. Donc il y a eu plein de bouleversements environnementaux qui ont créé aujourd'hui ce lac.
Et qui ont créé le cordon de dunes.
Voilà. Qui bouge, hein, ce qu'on appelle le trait de côte. Ce trait de côte est variable et il ne cesse d'évoluer au fil du temps. Donc en ce qui concerne la recherche archéologique, là nous étions avant dans les années 80, et il faut savoir dans le milieu des années 90, le Centre de Recherche Archéologique sur les Landes vit le jour sous l'impulsion de deux personnes qui sont Jean-Claude Merlet. Jean-Claude Merlet a remplacé temporairement Robert Henrambourou dans ses fonctions de responsable pour les monuments historiques du département des Landes. Et la deuxième personne qui a créé le Centre de Recherche Archéologique sur les Landes est le docteur Bernard Gélibert, qui était médecin à Mont-de-Marsan. La recherche archéologique a évolué en France, puisque, après avoir vu la naissance et la consolidation d'une administration dédiée à l'archéologie, qui s'appelle le Service Régional de l'Archéologie, qui dépend de la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Oui, on est dans une administration, donc c'est logique qu'il y ait autant de titres qui apparaissent. La loi sur l'archéologie préventive a été signée en 2001. Cette loi est très importante puisqu'elle impose la réalisation de fouilles archéologiques qui sont payées par l'aménageur. Avant cela, avant la création des services régionaux de l'archéologie et de cette loi, il est certain que de nombreux sites archéologiques landais ont disparu ou ont été dissimulés par les différents travaux d'aménagement.
Alors ça, c'est très important parce que ce que nous dit Didier, c'est qu'on a perdu énormément de connaissances sur ce passé, tout simplement parce que, à un moment donné, mais comme partout, hein, en France, ailleurs, il y a des intérêts qui prennent le pas sur, je dirais, l'intérêt historique ou l'intérêt culturel. Quand un aménageur, maintenant, doit construire, par exemple, un lotissement ou un immeuble, si on trouve quelque chose dans le sous-sol, il faut payer. C'est l'aménageur qui paye.
Tout à fait, c'est ce que j'expliquais auparavant. C'est l'aménageur, via une taxe, qui paye la fouille archéologique.
Donc, oui, c'est assez dissuasif pour l'aménageur.
Alors, pour l'aménageur, c'est une contrainte supplémentaire qui est née en 2001. Hein. De nos jours, normalement, cette contrainte doit être totalement intégrée dans le projet de réalisation de construction. Ce n'est pas toujours le cas, puisqu'on a encore certains élus qui deviennent un petit peu curieux et qui commencent à s'étonner lorsque il y a une part qui est dédiée à l'archéologie dans le budget de fonctionnement du projet. Mais cette taxe maintenant est obligatoire et personne ne devrait s'en étonner.
Alors, les choses ont encore évolué. Donc, après l'apparition de cette loi de l'archéologie préventive, alors que s'est-il passé?
Après, il s'est passé un petit peu de temps, puisque 15 ans plus tard, en 2016, Le département des Landes a recruté un archéologue départemental en charge de valoriser le patrimoine archéologique local. Et aussi, en 2016, il y a eu la création d'un dépôt archéologique qui a été mis en service par le service régional de l'archéologie et qui est co-géré par le Centre de recherche archéologique sur les Landes, dont je dépends.
Qu'en est-il donc aujourd'hui ?
Eh bien aujourd'hui, du fait d'une faible industrialisation du territoire, l'archéologie est peu présente dans les Landes de Gascogne, contrairement à la partie est de la France. Dans les Landes, l'archéologie préventive intervient essentiellement en agglomération lors de travaux d'aménagement, comme l'agrandissement de carrières, les autoroutes ou les voies ferrées. Après une interruption d'une quinzaine d'années, les activités subaquatiques ont repris dans le lac de Sanguinet-Cazo. Et le Kral, quant à lui, continue de contribuer à une meilleure connaissance du passé de notre territoire avec ses 11 bénévoles. Ils sont très souvent sur le terrain et ses membres de l'association ont découvert plus de 1600 sites archéologiques au cours de ces 30 dernières années, dont 1300 sites découverts après la tempête de 2009. Il faut savoir que le Kral intervient exclusivement au milieu forestier, bénévolement et avec l'accord des propriétaires.
Alors effectivement, c'est quand même énorme, 1600 sites archéologiques découverts. Hein. Alors 1300 avec la tempête de 2009, c'est au moins, je dirais, le seul aspect positif qu'on peut trouver à la tempête. Hein, parce que...
Ah, c'est vraiment le seul, oui.
Oui, mais c'est extraordinaire comme découverte.
Ouais, oui, on a un taux de découverte qui est inédit en France, où on a énormément de sites, comme je l'ai dit, de toute période, qui vont du néolithique jusqu'au bas Moyen-Âge. Qui ont été découverts au cours des prospections réalisées dans les semis forestiers.
Bien, alors avant de poursuivre dans une seconde partie, nous avons une petite pause musicale, Didier.
Ah oui, nous avons une petite pause musicale et nous allons écouter Now We're Free, la chanson du film Gladiator.
Hello.
Alors, dans la première partie de notre émission, donc, je rappelle que nous avons Didier Vigneault, archéologue, comme intervenant. Et il nous a présenté les débuts de l'archéologie dans le département des Landes, hein, depuis pratiquement la fin du 19e siècle, et en particulier les grands progrès qui ont été accomplis durant ces dernières années, puisqu'il nous disait, avant que nous ayons la pause musicale, que plus de 1600 sites archéologiques avaient quand même été découverts au cours de ces 30 dernières années. Alors, ça veut dire que la forêt des Landes de Gascogne est un terrain extrêmement favorable, Didier.
Ah oui, tout à fait. Oui. On s'en est rendu compte, on a commencé à s'en rendre compte qu'il y a 30 ans, par la découverte de quelques sites. Mais depuis 30 ans, et notamment depuis les effets tempêtes, tout s'est accéléré. Et tout le monde comprend maintenant que les Landes sont en réalité une véritable réserve archéologique. Cette réserve, il faut être sur le terrain pour pouvoir la mettre en avant et pouvoir découvrir les sites. Il faut donc pratiquer de l'archéologie. Il faut savoir quand même que la forêt des Landes de Gascogne occupe actuellement 69% de notre département, ce qui est assez grand, hein, puisque cela représente à peu près dans les 6900 km², ce qui est un gros territoire. L'exploitation de cette forêt s'est accélérée sous Napoléon III, comme vous le savez, hein, à partir de 1857. Elle a connu de nombreux événements terribles, comme les incendies des années 50, mais aussi les tempêtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 99 et de 2009. Et ces tempêtes ont détruit quand même l'équivalent de 300 000 hectares de terrain.
Le fait que l'on ait planté cette immense forêt de Gascogne a quand même permis de préserver un certain nombre de sites, puisqu'on les retrouve après une tempête ou après un déboisement. C'est bien ça.
Ah oui, oui, ça a été un avantage crucial, puisque cette forêt a figé le sous-sol, empêchant ainsi l'agriculture intensive de pouvoir œuvrer. Et le problème que l'on a aujourd'hui en archéologie, c'est de ne pas justement pouvoir retrouver des sites intacts ou peu érodés ou peu détruits par l'agriculture. Dans les Landes de la Gascogne, c'est un avantage, c'est que nous avons les terrains qui sont pratiquement intacts.
Alors actuellement, dans les Landes, quelles sont les opérations archéologiques réalisées ?
Alors il y a plusieurs types et plusieurs opérations qui ont été réalisées dans les Landes. Il y a d'abord les opérations de l'archéologie préventive. C'est celle que l'on a parlé tout à l'heure, qui intervient payée par l'aménageur sur demande de l'État. Et il y a aussi celle de l'archéologie programmée, qui là est une intervention de bénévoles, hein, que ce soit des membres d'universités ou des membres d'associations bénévoles. Mais toutes ces opérations nécessitent absolument un arrêté préfectoral avant d'agir sur différents types de travaux.
Alors moi j'ai une question, par exemple, bon, l'archéologie préventive est menée par un certain nombre soit d'institutions, soit d'associations, de sociétés privées. Hein,
Ce sont des
sociétés privées, mmh. Voilà. Tu en parleras peut-être tout à l'heure. Mais l'archéologie programmée, elle va dépendre aussi du service de l'archéologie, de l'université qui a besoin aussi de faire avancer les connaissances, c'est ça?
C'est ça, c'est exact, oui, c'est ça. Mmh. Donc l'archéologie programmée se fait sur demande de responsables de recherche qui doivent mener un travail de fond, donc essayer d'enquêter sur un site. Ils vont en faire la demande au service régional de l'archéologie, mais ce sont des personnes qui seront considérées comme des bénévoles, puisqu'elles agiront non pas dans le cadre préventif, mais dans le cadre programmé.
Alors du coup, tu vas pouvoir nous dire comment travaille un archéologue.
Un archéologue va travailler à partir déjà d'opérations de terrain, et aussi d'opérations, ce qu'on appelle des post-fouilles, c'est-à-dire des opérations qui interviennent après le terrain. Sur le terrain, nous avons plusieurs types d'opérations, notamment des opérations que l'on appelle invasives, c'est-à-dire que ce sont des opérations qui vont nous permettre de creuser le sol. Il y a notamment des fouilles et aussi des sondages. Ensuite, sur le terrain, il est possible de faire d'autres opérations qui ne sont pas invasives, c'est-à-dire que l'on ne va pas utiliser des moyens mécaniques pour creuser. Et ces opérations-là, ce sont des opérations que l'on appelle des prospections inventaires. Alors, les prospections inventaires, ce sont des marches sur le terrain à la recherche de témoins archéologiques. Il y a des vestiges qui sont remontés par les labours ou qui traînent sur le sol. Et le but de ces prospections, c'est de pouvoir les repérer, de les positionner avec des GPS et de les étudier. Il y a aussi un autre type de prospection qui ne sont pas des prospections invasives, ce sont des prospections géophysiques où on va utiliser des radars de sol. Avec ces radars de sol, on va pouvoir savoir quels vestiges se cachent dans le sous-sol. Alors ce ne sont pas des moyens qui sont parfaits et qui en plus demandent des connaissances techniques et scientifiques assez importantes pour pouvoir lire les résultats. Et en marge de toutes ces opérations-là qui peuvent se faire sur le terrain, il y a d'autres opérations qui peuvent se faire à distance, avec notamment l'analyse des différentes photographies aériennes. Une personne va pouvoir identifier, regarder des sites grâce aux photos aériennes que l'on a actuellement, notamment sur de nombreux sites qui sont en ligne. Donc depuis le bureau, il est possible de vérifier si un site apparaît ou pas dans un territoire grâce aux photos aériennes. Malheureusement, dans les Landes, ce système-là est complètement inefficient puisque nous l'avons constaté, cela fonctionne extrêmement bien sur des terres qui sont ou humides ou cultivées en blé. Ce n'est pas le cas dans les Landes. Il y a ensuite un autre type d'opération qui a vu le jour très récemment, hein, qui sont des opérations qui sont réalisées au LIDAR. Le LIDAR, c'est un système de laser aéroporté. Le laser émet des émissions, elles sont ensuite renvoyées vers un avion ou vers un hélicoptère et il faut ensuite pouvoir analyser ces données et les traiter avec un logiciel. Là encore, cela requiert des spécialistes, mais néanmoins, ces images LIDAR peuvent être étudiées par les archéologues puisqu'elles permettent de voir les reliefs et notamment les reliefs qu'il y a sous la forêt. C'était très intéressant.
En particulier, tu as obtenu des résultats.
Ah oui, on a obtenu d'excellents résultats. J'ai eu un gros travail que je me suis fixé, qui était d'analyser tout ce qu'on appelle les images LIDAR, qu'on appelle des DAL. Ce sont des images LIDAR du département des Landes. Il y en avait plus de 10 600. Je les ai toutes regardées une à une, ce qui a permis de découvrir plus de 160 sites. Alors, bien évidemment, en reprenant la documentation sur ces 160 sites, il y en avait déjà quelques-uns de connus, et on a pu mettre en évidence environ une soixantaine de sites qui étaient inédits, ou du moins inconnus des archéologues et des chercheurs.
Est-ce que tu peux nous parler des différents types de sites qui ont été découverts dans la forêt ?
Ah ouais, oui, bien sûr. Mais il faut savoir d'abord que personne dans le milieu archéologique ne s'attendait à découvrir tous les sites que l'on a pu découvrir. Ces sites vont de l'habitat rural jusqu'à ce qu'on appelle des agglomérations. Alors les agglomérations, ça peut être des hameaux, des villages ou des villes. Donc on a découvert tout type de sites sous la forêt des Landes. On a aussi découvert des voies romaines, on a aussi découvert des ateliers, de l'artisanat, on a aussi découvert des nécropoles, et on a aussi découvert, comme je l'ai dit tout à l'heure, des sites en élévation qui sont des sites fortifiés qui peuvent dater du Moyen-Âge ou de l'âge du fer. Par exemple, on peut citer les nécropoles de guerriers aquitains qui ont été découverts dans la région de Jeloux, des guerriers qui étaient équipés avec des épées et des bijoux. On a aussi découvert des ateliers de production de goudron de la période romaine sur le long de la vallée de la Lère. Et on a découvert en tout une cinquantaine de nécropoles de l'âge du fer. On a aussi un atelier de tisserand de l'âge du bronze. Et il y a d'autres sites dont je ne peux pas énumérer. Il me faudrait plusieurs émissions pour pouvoir les énumérer.
Alors ça m'amène à une question. Hein. Avec les aventures d'Indiana Jones, le cinéma a popularisé l'image de l'archéologue découvreur de trésors. Alors qu'en est-il en réalité ?
Alors, je crois qu'il va falloir redéfinir la notion de trésor. Il y a un trésor scientifique, il y a un trésor pécunier ou monétaire. On a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de nombreux sites qui ont été découverts, tous inédits. Pour moi, ce sont des trésors. Maintenant, dans le langage populaire, effectivement, un trésor, c'est quelque chose de visuel, constitué de bijoux, de monnaie. Alors, effectivement, ça nous est arrivé d'en trouver, de ce style-là. Mais je vous rassure, c'est pas des trésors d'or ou comme on peut le voir dans Indiana Jones, des trésors faits avec des statuettes ou des bijoux. Ce sont des trésors plus modestes, composés de quelques monnaies ou de quelques bijoux. Mais Indiana Jones, c'est une image qui est véhiculée par Hollywood. Que nous n'avons pas, nous, en tant qu'archéologues, nous ne sommes pas tous Indiana Jones.
Alors, une dernière question. Quel est l'avenir de la recherche archéologique dans les Landes ?
Eh bien, pour l'instant, l'avenir s'annonce particulièrement laborieux. Laborieux dans le sens où on va avoir beaucoup de travail, puisque l'État continue de prescrire des fouilles archéologiques lorsqu'il est possible de le faire. La prochaine prescription devrait avoir lieu à Mont-de-Marsan. Le CRAAL, donc le Centre de Recherche Archéologique sur les Landes, continue à travailler sur le corpus des sites découverts depuis la tempête de 2009. Là, nous avons un énorme travail de recherche à faire en laboratoire, comme notamment le nettoyage et le dessin de toutes les poteries et de tous les objets qui ont été découverts, et la réalisation de rapports et de publications archéologiques. Mais nous continuons en parallèle à surveiller les parcelles forestières. Et depuis 2 ans, les Landes attirent le milieu universitaire avec la recherche des vestiges de l'agropastoralisme landais, qui est un programme qui a été développé et mis en place depuis 2 ans, auquel Jeanne-Marie et moi-même nous participons. Et d'autres programmes de recherche ont aussi commencé, comme celui sur l'étude d'un site de Saint-Justin, ou aussi celui sur l'étude des mottes et fortifications médiévales. Un autre programme universitaire s'intéresse aux goudrons végétaux landais, avec notamment des membres de l'IUT de Mont-de-Marsan et moi-même. Et enfin, il y a une campagne de fouilles universitaires sous forme d'un chantier école qui continue encore 2 ans sur une nécropole pré-romaine située au nord de la Dour. Alors comme tu peux le voir, il y a beaucoup de choses en perspective.
Alors nous arrivons à la fin de cette émission vraiment tout à fait passionnante. Merci Didier d'avoir partagé avec les auditeurs de Radio MDM ta passion de l'archéologie. Et quant à nous, nous nous voyons le mois prochain, ça sera le 21 novembre normalement, pour une nouvelle émission dans laquelle Didier nous parlera des paysages landais et de leur évolution il y a des milliers ou des centaines d'années, paysages redécouverts grâce à l'archéologie. Alors, au revoir Didier.
Au revoir Jeanne-Marie.
Belle journée à tous.